C'est le commentaire d'Isabelle Fontaine. Salut Isabelle.
Bonjour Steve.
Tu me disais, hey, t'as pas parlé de l'hôtel de ville.
J'aurais pu donner mon 10 minutes de temps de chronique à M. Fontaine. Je trouvais ça intéressant quand même. Ce qui m'a marqué dans ses commentaires, c'est qu'il a dit qu'il avait le temps de réfléchir, hein, de développer des nouvelles idées, de réfléchir à des nouveaux enjeux. Effectivement, la politique souvent avale les politiciens. Mais moi, je pense que ce qui fait un bon politicien, justement, c'est ceux qui ont eu le temps de réfléchir en amont à ce qu'ils feraient avec une telle fonction. Alors, si Luc Fortin prend le temps de... met beaucoup de temps dans ses réflexions maintenant et qu'il nous promet de revenir, on peut s'attendre à ce qu'il soit encore meilleur à son retour, peu importe le palier où il reviendra.
C'est pas toujours le cas, mais je le crois très, très, très sincère quand il dit « j'ai pas de plan pour l'instant, puis je réfléchis ». Il a l'air d'un homme qui... on va prendre une pause, là. Écoute, j'ai envie de penser à pas grand-chose présentement. Sert encore son parti. Ça, je trouve que c'est d'une intégrité quand même assez forte.
Absolument. Puis je pense qu'en fait, dans la majorité des cas, les politiciens engagés sont comme ça. Pour lui, la meilleure chose, probablement, c'est de réfléchir aux prochaines contributions qu'il pourra faire. Et après ça, il verra les opportunités. Elles seront où? Seront-elles à Sherbrooke? Seront-elles provincial, au fédéral? Ou dans quel genre d'engagement il pourra réaliser ou mettre de l'avant ces nouveaux projets qu'il y aura ou ces nouvelles orientations?
Et en bout de ligne, tes opportunités, tu les crées aussi en politique. Hein?
Absolument.
Je veux dire, tout est cyclique. Il y aura fédéral bientôt, il y aura du municipal quand même dans pas si long.
C'est pas juste la fonction que tu occupes, c'est ce que tu arrives à faire avec la fonction
exact,
que tu occupes.
Exact, tout à fait. Ce matin, on revient avec quoi, Isabelle? Tu voulais nous commenter quoi?
Ben écoute, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu commenter ce matin. Il y a là 1,6 milliard de dollars que M. Trudeau a investi hier, a promis en fait au secteur des hydrocarbures en Alberta, hein, qui a finalement fait que des mécontents. À la fois en Alberta, on a dit que c'était pas suffisant. Bon, ici, on dit que dans le contexte de la lutte au changement climatique, c'est peut-être pas le meilleur investissement. Moi, je pense qu'il faut revenir à c'est quoi le problème de l'Alberta à l'heure actuelle? Le problème du pétrole en Alberta, c'est l'accès au marché. Puis l'accès est tellement difficile. Hein. Faut comprendre que dans le marché, il y a deux prix pour le pétrole. Il y a le prix aux États-Unis et il y a le prix qu'on pourrait avoir aux côtes, donc à l'ouest ou à l'est. Mm-hmm. C'est deux prix différents. Et là, à cause de la difficulté d'accès, on a des prix du baril vraiment en dessous. Trop bas. De ce qu'on aurait si on avait plus d'accès au marché. Et la seule solution qui existe pour l'accès au marché de façon importante par rapport à la quantité, c'est le pipeline.
Le léoduc.
À un moment donné, il y a des limites à la quantité de wagons qu'on peut mettre sur les rails, puis il y a des enjeux de sécurité avec les trains aussi.
Oui.
Donc, quand M. Trudeau dit on va investir 1,6 milliard dans la diversification des marchés, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut rendre cet investissement-là intéressant et encourager les producteurs à trouver des nouveaux clients si de toute façon ils ne sont pas capables de conduire le pétrole vers les marchés, d'une part. L'autre aspect sur cet investissement-là, c'est la réduction de l'impact environnemental de l'exploitation de ces hydrocarbures-là. Effectivement, en même temps, la bourse sur le carbone qu'on a au Québec a un peu le même effet, hein, de bloquer, de limiter l'émission de GES associée à des activités industrielles pour forcer les entreprises soit à investir dans l'innovation ou soit à acheter des crédits carbone et donc à détourner l'argent vers le gouvernement pour améliorer l'efficacité énergétique de technologie. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise mesure, mais en même temps, c'est une mesure très... qui manque d'importance par rapport à l'ampleur du problème en Alberta. Tu sais, l'Alberta est confrontée à un vrai dilemme, c'est est-ce que les hydrocarbures, c'est le futur de son économie ou est-ce qu'elle ne devrait pas carrément diversifier son économie? Mmh. C'est ça le vrai défi.
Pour l'instant, il n'y a pas de question, ils n'ont pas le choix. En ce moment même, là, c'est leur pain et leur beurre, c'est tout en Alberta.
Et c'est l'urgence. Mais est-ce que ce 1,6 milliard-là aurait pu avoir des efficacités un peu plus grandes? Parce que ce n'est pas un montant si important que ça par rapport à la taille du problème.
Exact. Mais ça amène M. Trudeau dans le coin quand même. Il est pris dans le coin du ring. Parce que là, de un... as-tu vraiment le choix d'aider une province qui est à ce point dans le problème? Tu l'as mentionné, il n'y en a pas d'option. C'est l'oléoduc ou l'oléoduc. Pour la Colombie-Britannique, on n'en veut pas. Énergie Est, on sait à quel point il y a eu une mobilisation importante quand même au Québec. Et ajoute à ça le fait que, là, d'un point de vue strictement environnemental et international, il n'a plus de crédibilité.
Absolument. Puis, tu sais, effectivement, il y a l'enjeu de l'élection qui s'en vient aussi. Tu sais, il est pris dans un pays où les principales tensions sont associées à la lutte au changement climatique puis à l'exploitation des hydrocarbures. Puis c'est le défi environnemental face auquel il est placé aussi. Mm-hmm. Donc, c'est assez compliqué pour lui. Puis c'était... Moi, effectivement, c'était une drôle d'annonce qui, finalement, qui n'a satisfait personne et qui n'a pas nécessairement d'impact important sur le réel problème.
Et perdant un peu par défaut. Tu penses quoi de la règle, les règles qui seront imposées au cégep de Sherbrooke? Bon, évidemment, le gouvernement les a contraints à choisir une politique là, en matière sexuelle, puis surtout de relations entre les enseignants et les étudiants. Ils devaient le faire pour le 1er janvier 2019. Donc, on interdit à tout enseignant qui a un étudiant dans ses cours d'avoir une relation avec, relation interdite avec les mineurs. Puis on ajoute aussi la notion d'autorité, c'est-à-dire un coach, par exemple, de volleyball ou de je ne sais pas quel sport, ne peut pas avoir de relation non plus avec ses étudiantes.
Honnêtement, là, dans tout ce qu'on a vécu...
Ça peut être étudiant.
Absolument.
Là.
Puis, tu sais, c'est autant des hommes que des femmes. Là. On va finir par arriver à l'égalité. Mais dans tout ce qu'on a vécu par rapport à MeToo, par rapport, tu sais, les mœurs se transforment. Et là, qu'on se donne des règles claires. J'entendais le Doc Mailloux dire plutôt il faudrait voir est-ce qu'il y a des réels problèmes, tout ça. Je partage plus ou moins son analyse parce que je me dis... c'est pas seulement pour régler des cas qui auraient pu se passer dans le passé, mais c'est surtout pour encadrer ceux qui viendront.
On peut y aller en amont.
Évidemment, on peut y aller en amont. Mm-hmm. Et là, de fixer un cadre clair et de dire aux enseignants, aux étudiants puis aux personnes qui ont des fonctions dans le cégep, si jamais ça se produit, hein, parce qu'on le sait, des fois, l'amour et les émotions font en sorte qu'on a les idées un peu moins claires par rapport à ça, mais là, on sait en amont, avant qu'on soit emporté par la fougue des relations humaines, c'est quoi les cadres dans lesquels ça peut se passer et dans lesquels ça ne peut pas se passer. Et moi, je pense que la relation d'autorité, c'est exactement là où on doit agir. Pas juste dans les établissements d'enseignement, aussi dans les milieux de travail, tu sais. Puis c'est pas juste de protéger...
Quoi que ça devient moins simple, par contre, dans les milieux de travail. T'sais, tu peux pas interdire une relation entre employeur et employé, par exemple.
Non, mais l'employeur a...
La petite musique de Noël.
La petite musique de Noël. L'employeur a une responsabilité.
Non,
il faut qu'il sache en amont dans la situation dans laquelle il place un employé. Puis c'est pas juste protéger les gens qui sont sous l'autorité, mais aussi ceux qui ont l'autorité.
D'où l'importance d'avoir une politique.
Exactement. Si ça tourne mal et que l'étudiant... décide d'utiliser cette relation qu'il a eue pour créer un préjudice
à mauvais escient. Ou l'enseignant, même chose.
L'enseignant. Donc, moi, je pense que la relation d'autorité, c'est clair ici. On dit, le cégep dit, on demande aux professeurs de ne pas avoir de relation avec leurs étudiants. Et si jamais il y en a une en amont, hein, le cégep disait aussi, si elle est divulguée, on essaiera de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas en relation d'autorité directe.
On va essayer de protéger
ce qui s'en vient. Je pense que c'est de bonne guerre. Je pense que le cégep protège les étudiants, les professeurs et lui-même en ayant la possibilité de dire si jamais ça se produit quand même. Nous, on avait des politiques et des règles claires. Mm-hmm. Vous ne les avez pas respectées. On peut agir dans ce cas-là.
Mais en même temps, Isabelle Fontaine, quand est-ce qu'une relation tourne mal? Ça n'arrive pas. On se reparle demain. Merci.
Salut, Adrien.